France Culture.
Un mot de la propagation du sida. Je vous le disais tout à l'heure, en ce moment, dans le monde, on compte, écoutez bien, un séropositif de plus toutes les 20 secondes, Laurence.
Particulièrement touchés, les toxicomanes. En France, près d'un sur deux est séropositif. C'est un des taux les plus élevés d'Europe. La prévention passe obligatoirement par l'usage de seringues stériles. Pour l'instant, seuls deux programmes d'échange de seringues existent en France.
Héroïne, le temps des seringues. Une série documentaire de Hajar Ben Boubaker, réalisée par Gilles Blanchard. Quatrième épisode, une lente redescente. À la fin des années 80 et au tout début des années 90, les acteurs associatifs et les habitants des cités se mobilisent pour tenter d'enrayer l'épidémie d'héroïne. La catastrophe sanitaire liée au VIH parmi des usagers de drogue oblige les pouvoirs publics à adopter les premières mesures de réduction des risques.
À l'époque, tout le monde injectait. C'était très rare. Ouais. Ceux qui sniffaient, c'était considéré comme des bourgeois. Voilà, c'était gâché. Donc c'était citron chauffé, etc. Puis après, ça fait des trucs. D'autant plus qu'à l'époque, les seringues n'étaient pas en vente libre.
Dynastie, DJ, Paris.
Donc il y en a qui s'organisaient. Il y avait une pharmacie à Nation qui était la seule qui, sous le manteau, filait une boîte de vin pour être tranquille. Et après, du coup, on s'était distribué entre nous. Moi, je suis dedans, je suis à 2 grammes par jour en injection. Tous, de toute façon, ils s'injectent. Et ça commence, mais moi, je l'ai déjà vécu en 79, où déjà, c'était la même seringue partagée par... genre, je faisais une shoot party, juste un verre d'eau, on nettoyait comme on pouvait, et puis finalement, il y en avait un qui avait l'hépatite, et tout le monde l'a eu, quoi. Donc moi, j'ai passé 6 mois sans pouvoir travailler à cause de l'hépatite B. Donc à partir de là, j'ai jamais partagé une seringue. Ça m'a peut-être sauvé la vie ensuite. Parce que ça continuait. Alors des fois, je chopais l'hépatite, des fois pas. Donc voilà. Mais c'était récurrent parce que les seringues étaient très compliquées à avoir. Ce qui était malheureux d'ailleurs. Du coup, on prenait des trucs pour le vaccin. Enfin, c'était quand même assez sauvage. Avec des aiguilles énormes. Enfin, c'était n'importe quoi.
Je me suis trop niqué, même le diable ne peut plus m'aider. Ça paraît incroyable, mais je danse avec le diable. Ça paraît invraisemblable, mais je danse avec le diable. Même le diable ne peut plus m'aider.
Quand le sida est arrivé, la seringue était interdite, tu pouvais pas en avoir, il fallait aller voler à l'hôpital, tout. Ah, c'est les mecs qui shootaient avec des trucs de saule.
Ahmed, ancien consommateur, Nanterre.
Ils ont libéré les seringues, tout ça, hein. Ils ont libéré à partir du sida. Mais avant ça, la drogue était facile à avoir, c'est pour du fric. Mais la seringue, c'était plus dur à avoir une seringue qu'avoir sa drogue. Alors, c'est-à-dire tout le monde se shootait, moi je me rappelle, on était chez Stéphane, des copains, ils étaient 10 à shooter, hein, il n'y avait qu'une seringue. Pourquoi ? Parce que la seringue était plus dure à avoir qu'avoir sa drogue. Et t'arrêtais avec une seringue, t'allais en tôle. Tu te rends compte ? En ouais. Prison, on faisait des seringues avec des stylos billes. C'est sûr, je vois. Ah là, il y a des soirées longues. On se reverra un jour. Ah, salut !
Le sida, dans les années 80, il n'y avait pas de traitement et une espérance de vie qui était très faible.
Fabrice Olivet, historien, Gagny.
Au moment où j'étais sorti, entre guillemets, d'affaires, j'ai réfléchi au fait qu'il était absolument injuste et anormal que d'autres personnes subissent cette punition qui était à l'époque, il faut le savoir, une punition de condamnation à mort. Donc, cette prise de conscience m'a amené à me dire qu'il fallait que je fasse quelque chose en accord avec ça pour que le système ne se reproduise pas et donc que la répression de l'usage de drogue ne conduise pas à cette situation morbide et cette situation d'impasse dans laquelle je me trouvais. Lorsqu'on m'a expliqué que j'étais séropositif, on m'a absolument rien dit d'autre. On m'a pas dit éviter que de contaminer d'autres personnes. Il faut avoir des seringues stériles. De toute façon, il n'y avait pas possibilité d'en avoir parce que c'était interdit. Et donc j'ai rencontré à l'époque d'autres personnes qui faisaient ce constat-là au sein d'une association qui s'appelle ASUD, Autosupport des usagers de drogue, et donc qui est la première association de personnes concernées par l'usage de drogue qui se regroupait en association. Donc il fallait absolument faire quelque chose, et Ce qui est très étonnant, c'est que, en fait, les gouvernements avaient parfaitement conscience que la répression ne pouvait pas améliorer cette situation. Au contraire, que c'est la répression qui la conditionnait.
À partir de 87, 88, 89, on était quelques-uns à essayer de trouver des réponses. Soit des acteurs de terrain, comme je l'étais à l'époque.
Anne Coppel, sociologue.
Soit des médecins généralistes, il y a eu des médecins généralistes et quelques médecins hospitaliers, des rares, mais il y en a, qui ont commencé à vouloir s'occuper de ces patients, parce que ces patients, c'était des patients comme les autres, ils avaient le droit aussi aux soins, c'était ce que disait par exemple le docteur Carpentier, qui a été un des premiers à prescrire en fait des substituts, qui n'avaient pas de statut légal à l'époque. Donc il y a eu des premières expérimentations qui relèvent de la réduction des risques. On ne savait pas que c'était une politique. On ne savait pas ce qui se passait en Grande-Bretagne. Bon, on savait vaguement ce qui se passait en Hollande, mais ça, c'était considéré comme un désastre par la plupart des politiques.
Pourquoi c'était un désastre ?
Ah, parce que c'était un pays laxiste, tolérant, où on pouvait consommer du cannabis et où on distribuait des seringues aux drogués. Enfin bon, voilà, c'était grosso modo, c'était... Parce que nous les Français, on n'imaginait pas qu'il fallait une politique de santé publique, enfin des mesures de santé publique par rapport à la question de la toxicomanie.
La peur du sida a amené le gouvernement français à prendre des mesures complètement antinomiques avec la répression. Il faut bien avoir en tête que si le gouvernement a fait ça, c'est pas parce que d'un seul coup il s'est dit qu'il fallait s'occuper des toxicos, c'est parce que les toxicos constituaient un vecteur de contamination extrêmement dangereux pour l'ensemble de la société. Il faut attendre le retour au pouvoir de la droite en 1986, avec Jacques Chirac qui devient Premier ministre, la première cohabitation. Et au sein de ce gouvernement, il y a une ministre de la Santé qui s'appelle Michèle Barzac, qui comprend qu'il y a une solution, c'est d'abolir le décret de 72 et de remettre les seringues en vente libre. Et qui va le faire en se coltinant toutes les oppositions. Elle va se coltiner l'opposition de son propre parti, parce qu'encore une fois, c'est le RPR qui fait son miel politique de discours archi-répressifs. Et elle va scoltiner aussi les intervenants en toxicomanie qui sont censés être des spécialistes et qui sont plutôt de gauche, qui leur expliquent, avec Olive Weinstein, que de toute façon, la réduction des risques, c'est baisser la garde devant l'usage de drogue et que ce n'est pas des mesures qui vont être efficaces. Et comme elle est persuadée que c'est la mesure qui va sauver des milliers de vies, elle prend appui sur le Premier ministre Jacques Chirac. Il a été capable de comprendre les arguments développés par Michel Barzac sur la primauté de la santé publique. Et à partir du moment où elle fait passer son décret qui abolit l'interdiction d'acheter des seringues et qui rend les seringues en accès libre en pharmacie, la contamination s'effondre, littéralement. La question du sida, en tout cas en ce qui concerne les usagers de drogue, disparaît en quelques mois.
Il a bien fallu s'y résoudre, les seringues seront bientôt mises en vente libre dans les pharmacies. Il s'agit bien sûr d'une mesure contre la propagation du sida. 50 à 80% des toxicomanes sont contaminés, ainsi pourront-ils au moins se servir d'aiguilles propres. Pour Michel Barzac, ministre délégué à la Santé, c'est une mesure réaliste qui n'implique pas un renoncement à la lutte contre la drogue.
Nous avons mené une très large concertation, nous avons pris un grand temps de réflexion pour voir quel était le risque majeur. Et d'évidence, pour tous les spécialistes et pour toutes les personnes concernées par ce problème, le risque n'est pas celui de magnifier ou d'augmenter la toxicomanie, mais est, alors que nous avons entrepris une action pour essayer de sortir les toxicomanes de leur toxicomanie, c'est de les retrouver à cette sortie avec le sida. Et donc, vous comprendrez que c'est pour nous, dans le cadre des priorités, c'est celle-là que l'on a établie.
On était dans ce paradoxe-là, que ce soit les policiers, les acteurs de terrain et les usagers. Il y avait la vente libre des seringues en pharmacie, il y avait des programmes d'échange de seringues.
Nelly Boulanger, actrice associative, Le Blanc-Ménil.
Et puis de l'autre côté, ben, y avait la loi de 70 qui pénalisait l'usage et la seringue, c'était une preuve d'usage. Donc si un usager se faisait arrêter avec une seringue, eh ben, il risquait une peine de prison. Donc ce qui se passait, c'est qu'une fois qu'il s'était injecté une drogue, il s'en débarrassait et il la jetait. Les seringues usagées étaient laissées dans l'espace public. C'était donc ce paradoxe-là. Ils y avaient accès, mais ils ne pouvaient pas les garder sur eux.
Et d'autre part, alors ça c'est une autre chose, c'est que ça ne suffit pas, hein, parce que ce n'est pas parce que le pharmacien a le droit de vendre qu'il va s'embêter à vendre des objets pour des toxicomanes dont ils préfèrent qu'ils ne fréquentent pas trop leur établissement. Donc, à Paris, il y avait bien quelques pharmacies qui vendaient des seringues, mais en banlieue, c'était très très rare, enfin pas à ma connaissance en tous les cas. Donc, du point de vue du droit, ça avait changé, mais du point de vue de la réalité de terrain, ça n'avait pas changé, en tous les cas, pour ceux qui étaient, disons, plus marginaux ou plus éloignés des sources d'information, quoi.
C'est Médecins du Monde qui a commencé, puis aide ensuite à proposer des programmes d'échange de seringues et tout simplement de l'information. C'est-à-dire que il faut avoir en tête que avant ça, alors que la question de la séropositivité était avérée, qu'on savait comment les gens se contaminaient, il n'y avait rien, il n'y avait même pas d'information.
Aller à la rencontre des toxicomanes près des lieux de deal. Telle est la mission du camion de Médecins du Monde qui se poste plusieurs après-midi par semaine dans certains lieux chauds de la capitale. Chaque mois, près de 6000 seringues stériles y sont distribuées, avec elles des tampons alcoolisés et des préservatifs.
On peut tout à fait sortir de la toxicomanie. On sort pour l'instant bien difficilement et l'issue est hélas fatale du sida. C'est pourquoi il faut savoir faire preuve de pragmatisme et faire acte de santé publique.
À l'intérieur du camion, une consultation avec un médecin, un éducateur, un travailleur social est toujours possible, jamais obligatoire.
Vous n'avez pas besoin de seringues propres.
Non, dans la mesure où moi je les achète et à chaque fois. Je m'en sers une fois et je les jette.
Est-ce que vous pensez que la plupart des toxicomanes font comme vous ou pas ?
Non, je sais très bien que non. Sinon, il n'y aurait pas autant de maladies.
Donc il y a une urgence ?
Bien sûr qu'il y a une urgence.
Le programme Échange de seringues de Médecins du Monde est en grande partie financé par le ministère de la Santé. Mais depuis 2 ans, un problème n'est toujours pas résolu. Régulièrement, à quelques mètres du camion, des policiers en civil attendent les toxicomanes.
Vous parliez aussi à un moment des overdoses, on avait entendu parler plus après, vous avez plus suivi
On en entendait beaucoup parler et ceux qui travaillaient à l'hôpital en voyaient très régulièrement aux urgences. Hein, c'était vraiment, ils disaient, c'était assez classique. Une voiture qui arrive à toute vitesse, qui dépose une personne et qui repart, c'est les copains qui ont amené quelqu'un qui était en train de faire une overdose aux urgences. Mais comme ils ne pouvaient pas déclarer qu'ils consommaient des drogues et qu'ils avaient peur de se faire prendre, ça se passait comme ça.
Martine Lalonde, médecin à la retraite. Gennevilliers.
Oui, on a parlé même de gens qui avaient fait des overdoses dans les toilettes de l'hôpital. Alors après, ils avaient mis une lumière bleue pour qu'on ne puisse pas s'injecter dans les toilettes. Enfin bon, il y avait beaucoup, beaucoup d'histoires d'overdoses à l'hôpital. Nous, en ville, on en a peu vu, mais on... Alors, pendant tout ce temps-là, avec ce réseau, on a fait des formations. Hein. On a essayé de se former à tout ce qui concernait la prise en charge des patients usagers de drogue. Donc, on s'est formé aussi sur l'overdose. On a rencontré aussi des associations. On a rencontré les Narcotiques Anonymes. On a rencontré Aide, évidemment. Donc, pour essayer de mieux comprendre et mieux savoir comment réagir. Moi, j'ai soigné des overdoses... Enfin, l'histoire d'overdose dont je me souviens, c'est compliqué. C'était un gars, sa copine venait de mourir du sida à l'hôpital. Il était resté toute la nuit avec elle. Et il est arrivé le matin à mon cabinet. Il m'a dit, Nathalie est morte, donc son amie. Et il m'a dit, j'ai fait une bêtise. Je lui ai dit quoi ? Il me dit, j'en ai repris. En fait, apparemment, il avait un peu arrêté l'héroïne. Et là, il en avait repris. Parce qu'il était rentré à pied chez lui et il en avait repris. Je lui ai dit, bon, ok, asseyez-vous dans la salle d'attente, on va voir. J'étais avec quelqu'un. Et la secrétaire me téléphone par l'interphone et me dit, votre patient, il est gris. Et en fait, il était en train de faire une overdose. Et le temps que je sorte de mon cabinet, c'était impressionnant. Il y avait une femme dans la salle d'attente, une femme un peu âgée dont le fils était mort d'overdose. Et il y avait un ancien usager de drogue qui avait des copains qui avaient fait des overdoses. Et tous les deux, ils l'ont pris chacun sous un bras. Ils ont ouvert la fenêtre, ils lui ont dit « respire, 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 respire ». Il savait quoi faire, quoi. C'était vraiment impressionnant. Alors bon, je lui ai injecté du Narcan, l'antidote de l'héroïne. Et puis après, on a appelé, il a fallu convaincre d'aller à l'hôpital, il voulait pas y aller, on a appelé l'ambulance, parce qu'on risque de rechuter après avoir eu l'injection de l'antidote. Il est allé à l'hôpital, et à l'hôpital, on a réussi à faire que le médecin, qu'il aimait beaucoup, qui avait suivi son ami et qui le suivait lui, descende aux urgences pour lui parler. Et après, il a pu rentrer chez lui. Mais c'était une sacrée affaire, quoi. Et voilà. Sinon, on n'était pas, nous, confrontés aux overdoses, mais les patients, oui, ils savaient, quoi. Là, c'était vraiment très impressionnant, quoi, de voir que tout le monde était concerné, quoi. Deux personnes dans la salle d'attente au même moment qui connaissaient très bien le problème, quoi.
Et dans ce que vous dites, c'est que les gens savaient aussi certains gestes.
Ah oui, que nous, on ne connaissait pas. Ah, nous, on ne savait pas, ça. Le truc d'ouvrir la fenêtre et de dire « respire, respire, respire », c'est en fait l'overdose, on arrête de respirer, quoi. Et c'était impressionnant, quoi. C'était vraiment... Oui, bien sûr, nous, on ne savait pas, ils savaient beaucoup mieux que nous. Hein. Bah, de toute façon, on a dit ça, hein. On l'a beaucoup dit après toute cette expérience-là, ils nous ont énormément appris, quoi. On a autant appris d'eux que de nos correspondants à l'hôpital, que dans les livres, parce qu'on s'est mis quand même à lire pas mal de choses, mais les patients nous ont tout appris, quoi. C'est vraiment, c'était impressionnant. Hein.
Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous dites « j'en ai marre ». J'en ai marre d'être dépendant, il y a plein de paramètres, soit c'est trop dur de trouver l'argent, soit vous en avez marre de passer du temps à courir après un produit qui ne vous apporte pas la satisfaction, par exemple s'il est de mauvaise qualité, etc. Ou bien vous n'arrivez plus à trouver le même plaisir, ça vaut plus la chandelle, en gros, ça vaut plus le coup, quoi. Et donc, vous avez envie d'autre chose.
Malika, ancienne consommatrice, Paris.
La façon dont j'ai arrêté, ça a été petit à petit. Vous voyez, ça n'a pas été du jour au lendemain comme ça. Donc, les derniers temps où je consommais, c'était par exemple, je consommais deux fois par semaine. Je prenais mes distances parce que j'en avais marre de passer ma vie à chercher. Et puis, en plus, j'ai eu des enfants et mon compagnon ne me mêlait pas. J'allais pas avec lui chercher. Il était hors de question que je me retrouve sur un plan de deal avec la poussette, etc. J'avais une copine qui était dans cette situation, quoi. Ça m'est arrivé plusieurs fois de voir des jeunes mamans avec leur môme dans la poussette. Je me mettais des limites. Il y a des choses que je pouvais pas faire, quoi. Notamment ma poussette sur un plan de deal ou bien la prostitution. C'était pas possible.
Et la méthadone, on vous la fournissait dans un centre ?
Ah oui, j'y débarque. Ils ont été bien. Parce que en 1980, il y avait deux centres méthadone. Celui qui avait été créé en 1973 par Simone Veil, Fernand Vidal et Sainte-Anne. Et après, il y a eu Pierre Nicole où travaillait Anne Coppel. Et après, ça s'est développé. Et Fernand Vidal, j'ai débarqué à l'hôpital en leur disant, voilà, je rentre de Thaïlande, je suis dépendante. Je consomme pas beaucoup parce que je fais l'effort, mais je suis obligée de consommer. Donc ils m'ont mis à la méthadone et voilà. Et ça s'est bien passé. J'ai plus cette dépendance. Je ne suis plus pieds et mains liés, quoi.
Alors moi, pour décrocher, il y a un de mes collègues qui m'a dit, bon, moi j'étais en Belgique. Il y a un centre d'addictologie à côté de Bruxelles et ils ont trouvé un truc, ça s'appelle le Burgodin. En fait, c'est l'ancêtre du Subutex. Donc je vais là-bas, j'étais à 2 grammes par jour, hein, de blanche. Bon, c'est pas la pire, mais ça attaque quand même.
Dynastie, Paris.
Puis je suis dans la salle d'attente, il n'y a que des tox vraiment ravagés, quoi. Parce que là-bas, à Bruxelles, Nero, elle a fait des gros ravages. Comme dans ma boîte de course, il y a de tous les styles. Hein. Il y a des rebeux, il y a des blancs, il y a des noirs. Tout le monde a pris ça dans la gueule. Et du coup, bah, à Bruxelles, je me fais mon dernier taquet, on appelle ça comme ça, dans les toilettes. Après, je vois la docteure et puis elle me file un traitement d'un mois. Et elle me dit, bon, écoutez, passez par l'autre sortie, parce que sinon, ils vous attendent devant, ils vont vous suivre jusqu'à la pharmacie générale au centre de Bruxelles, à côté de la gare. Donc, je fais ça, je cours. Je vois des gars qui commencent à me suivre et puis, bon, ils laissent tomber parce que je courais vraiment. Et puis après, le problème, c'était sortie de la pharmacie. Que les gars t'avaient repéré, donc ils attendaient que tu sortes avec le truc. J'arrive à m'en sortir, garder le truc sur moi. Après, il y a le train, parce que c'était considéré comme stupéfiant, donc t'as pas le droit. Il n'y avait pas le Thalys à l'époque, donc, et puis t'as les douaniers qui étaient dans le train. Donc je suis arrivé à passer entre les gouttes. Par contre, dès le premier cachet du Burgonin, zéro manque. C'était magique. Une fois rentré à Paris, j'ai repris mon boulot. J'ai fait le ménage autour de moi de tous ceux qui étaient encore dedans, qui arrêtaient pas de me dire « je suis dans le coin, je peux venir me shooter chez toi, et puis je partage tout ça », ce genre de glauquerie. Donc j'ai dit non, j'ai tenu le coup. Sauf que à la fin du traitement de Burgodin, c'était encore pire, quoi. J'essayais de diminuer petit à petit la dose, mais 3 semaines de Burgodin, bah, c'est comme le Subutex, ça n'arrête pas le Subutex du jour au lendemain, quoi. Donc après, du coup, néocodion, ouais, sirop, 1 litre par jour. Enfin, je veux dire, dans 2 flacons, ça fait 50 centilitres quand même. Et puis après, une gorgée en moins pour arriver à me débarrasser de ça, ça a pris 6 mois quand même.
Voilà. On est en quelle année à ce moment-là ?
Là, donc je suis rentré des États-Unis en 81, et du coup, j'ai réussi à me débarrasser en 82. Donc j'avais 22 ans. Et après, j'étais abstinent pendant 8 ans. Alors, ce qui était marrant pour mon cas, c'est que quand j'étais en forme, les gens disaient « Ouais, ça y est, il est retombé dans la coke ». Quand j'étais un peu fatigué, « Ah, il est retombé dans l'héro ». Enfin, ça m'a... des boulets que j'ai traînés, et que je traîne encore, d'ailleurs. C'est une réputation qui est marquée au fer blanc, quoi.
Et est-ce que dans cette histoire qui commence pour la cité dont vous êtes originaire en 82, qui se poursuit au moins jusqu'en 96, comme vous le dites, au moment où il y a une chasse aux dealers, est-ce que la municipalité, les autorités, est-ce qu'il y a des gens qui sont venus aider les habitants de la ville, de la municipalité de Nanterre ?
Moi, personnellement, jamais.
Rabat, habitant de Nanterre.
Sur la ville de Nanterre, là où je suis, jamais. Non. Ils ne savaient pas, les gens ne savaient pas trop ce que c'était. On parlait de drogue, qu'est-ce que... pour orienter vers un centre de soins, mais qu'est-ce qu'un centre de soins ? On y fait quoi ? Moi, sur Nanterre et tout, Mohamed, celui qui est décédé, là, qui a fait 5 ans en Algérie, qui est revenu... je l'ai accompagné là, ça s'appelait Agatha, à Gennevilliers, là, au village. C'est le centre de soins que je connaissais, c'est tout. Hein. Par mes moyens, par eux, je l'accompagnais. C'est pareil, hein. C'est moi, je me souviens, j'avais fait une lettre pour une post-cure et tout. J'ai timbré, ils ont envoyé, ça marchait. Hein. Je sais plus où c'est, hein. C'est vieux, c'est ancien. Et ça marchait. Mais il part, il se repose, il revient, bien, puis il recommence. Hein. Il va recommencer, il en est décédé.
Dans les années 80, chacun était isolé dans son coin et confronté à l'indifférence générale, voire à l'hostilité.
Anne Coppel.
Les toxicomanes à l'héroïne, qui en plus avaient le sida, alors vraiment, on pouvait difficilement faire pire. Et donc, on se sentait très isolé, mais on a commencé à se rencontrer, on a commencé à se parler. Donc, il y a un réseau qui s'est constitué. Kouchner nous a entendus, aussi bien nous que d'ailleurs le mouvement du sida, parce que heureusement que le mouvement du sida était là, c'était les seuls qui étaient quand même mobilisés sur la question. Et il a proposé au gouvernement socialiste d'ouvrir les centres méthadone pour 250 places. Bon, aujourd'hui, il y en a plus de 10 000, mais enfin bref, on n'était pas dans les bonnes proportions, mais enfin quand même, ça commençait à bouger.
Quand vous travaillez sur cette question dans les années 90, quel était le regard des gouvernements successifs sur la réduction des risques et sur ce qu'on appelait à l'époque les toxicomanes, enfin ces citoyens-là, quoi ?
Du côté du ministère de la Santé, la réduction des risques, à un moment donné, a été soutenue, mais parce qu'il a fallu qu'on soit très militant aussi pour ça.
Nelly Boulanger, actrice associative. Le Blanc-Ménil.
Il a fallu qu'on se regroupe. On avait un collectif qui s'appelait Limiter la casse, mais heureusement, c'est dans ce collectif qu'on a porté ces actions auprès des responsables nationaux.
Des toxicomanes meurent chaque jour du sida, d'hépatite B et C, de septicémie, par suicide ou par overdose. Ces morts peuvent être évitées. C'est ce qu'on appelle la réduction des risques. Limiter la casse, voilà l'urgence. Ces mesures sont applicables sans délai. Accès aux seringues stériles sans menace de poursuite, échange de seringues et distributeurs. Soins assurés aux malades sans chantage à la désintoxication. Traitement de substitution pour ceux qui en ont besoin. Reconnaissance du rôle essentiel des usagers de drogue dans la prévention. La politique actuelle, en prétendant éradiquer la toxicomanie, aggrave les risques. L'alternative entre incarcération ou obligation de désintoxication est une impasse. La responsabilité des pouvoirs publics est aujourd'hui engagée, comme elle le fut dans l'affaire du sang contaminé. Parce qu'une seule injection suffit pour devenir séropositif. Parce que les toxicomanes sont nos enfants, nos conjoints, nos amis, nos voisins. Parce qu'on ne gagnera pas contre le sida en oubliant les toxicomanes. Limitons la casse.
Tribune du collectif Limitons la casse, paru dans Le Monde et Libération en 1993.
Notre association, c'était l'association Arcade. Au départ, on était beaucoup sur le terrain et on avait très peu de moyens. Puis quand il y a eu ce brusque agrandissement du projet, d'une part, on a récupéré la mission bus de Seine-Saint-Denis qui n'avait pas du tout marché. C'était un bus de prévention du sida qui donnait des seringues. Donc ça n'avait pas du tout marché en Seine-Saint-Denis, donc la DAS m'a demandé de reprendre. Et puis, au niveau du ministère de la Santé, on m'a proposé aussi d'ouvrir la première boutique, comme il disait. C'était un lieu d'accès à Basseuil pour les toxicomanes les plus marginalisés. On avait une salle de bain où ils pouvaient se laver, une machine à laver où ils pouvaient laver leurs vêtements. Ils étaient accueillis dans le non-jugement. Je me rappelle un usager qui me disait « Mais c'est bizarre, tu me parles comme à une personne. Ben, » Je lui disais « Mais tu sais, je suis une personne, tu es une personne aussi. Hein. » Voilà, on leur redonnait un peu de dignité et d'humanité. À la fin, on était quand même en contact avec près de 600 toxicomanes, c'est énorme.
À quel moment, dans le groupe des personnes consommant de l'héroïne, on comprend que ça se répand en fait, que c'est les seringues qui sont responsables de la transmission?
Comme je vous dis, en fait, c'est une période assez courte. Et je pense que ça a dû être assez massif comme effet. C'est-à-dire qu'il devait y avoir beaucoup de morts.
Au-delà Lande. Ethnologue.
Une fois, quelqu'un m'a dit, un consommateur m'a dit, quand on a vu l'intensité des campagnes de prévention à la télé, il y a eu des messages diffusés à la télé disant attention, les seringues sont un vecteur de communication, si vous êtes consommateur de drogue, il faut utiliser des seringues propres. Il me disait, mais quand on a vu ça, on s'est dit, ça doit être vraiment, vraiment grave, pour que même à la télé, il passe des messages de prévention en direction de nous qui sommes les exclus, de chez les exclus, quoi, c'est que ça doit être grave. Donc, par ailleurs, c'est le groupe qui a changé ses pratiques le plus rapidement. C'est-à-dire que dans le groupe des usagers de drogue, le taux de contamination a chuté de façon drastique après la mise à disposition des seringues. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont organisés pour ne pas être contaminés. Donc, ils ont été extrêmement actifs, en fait.
Vous avez peur du sida ?
C'est sûr. C'est tout ça.
Donc, là, disons qu'ils ont mis les pompes en vente libre un petit peu tard, quand même, je crois. Hein. Je crois que beaucoup de monde est contaminé déjà.
Tu as fait un test ?
Moi, ouais. Séropositif.
Et toi ?
Ouais, moi aussi, j'ai fait un prison. Ça fait pas longtemps, ça fait 2 mois.
Donc, vous êtes déjà séropositif ?
Non.
Toi, t'es séronégatif ?
Ouais.
Et vous avez donc chacun votre seringue ?
Ah, oui, bien sûr. C'est un affaire. Ils viennent en vente libre pour ça, donc il vaut mieux qu'on les achète. Hein.
Mm-hmm. Environ la moitié des toxicos s'en sortent grâce aux associations et aux centres de post-cure. Pour les autres, la vente libre des seringues semble de mieux en mieux acceptée. Reste maintenant la priorité des priorités en matière de sida, tout faire pour que les jeunes qui n'ont pas encore touché à la drogue n'y touchent jamais.
Suite à la déferlante de l'usage de drogue, les pouvoirs publics ont créé le système de soins spécialisés, d'accord, Marmottan, etc. Mais
pendant 25 ans, il n'y a que le sevrage, pas de substitution. Il a fonctionné comme ça. Ce qui fait qu'il y a plein de gens qui sont passés à la trappe. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont morts du sida, qui sont morts parce qu'ils ont été trop loin dans l'usage de drogue. Et là, avec le sida, il y avait un fossé entre les soignants, on va dire, du système de soins spécialisés, qui étaient restés dans leur dorme, ceux qui avaient tout de suite compris qu'il fallait la réduction du risque, avancer dans cette voie, et puis ceux au milieu qui étaient issus du système de soins spécialisés et qui commençaient à dire non, ça suffit, là, il faut changer. En 93, on était dans cette situation.
En 1993, la méthadone reste un outil absolument anecdotique. Je crois qu'il y avait 50 places méthadone. Quand Bernard Kouchner, le ministère de la Santé, donne les clés à Simone Veil.
Fabrice Olivet, historien, Gagny.
Mais il faut du courage politique pour mettre en place, encore une fois, cette idée de méthadone qui était considérée encore par les spécialistes comme étant de la drogue. Et de fait, la méthadone, c'est un opiacé lourd, comparable à l'héroïne, mais c'est un opiacé synthétique. Et les spécialistes étaient fondamentalement opposés à l'idée que l'État fournisse une drogue légale, en fait. Donc Simone Veil, elle comprend les enjeux en relation avec l'épidémie de sida. On est en 93, il n'y a pas encore de traitement, ça reste une maladie mortelle. Et elle impose l'ouverture de 5000 places de méthadone. Puis ensuite, elle impose la possibilité de prescrire du Subutex, qui est une autre forme de traitement de substitution. Et elle crée ce système qui est un système unique quasiment au monde, où en France, on peut aller chez un médecin généraliste et se faire prescrire un mois de traitement de substitution remboursé par la Sécurité sociale. Et grâce à cette politique, encore une fois, la question du sida disparaît de la question de la toxicomanie.
Quelle est l'idée derrière un traitement de substitution et comment ça marche ?
L'idée, c'est de sortir de l'injection et de tous les risques qui sont liés à l'injection, à la fois le risque infectieux, le risque du sida et le risque aussi de se retrouver tout le temps avec des doses très fortes, un effet très important, et puis ensuite une retombée très importante, et du coup un manque rapide, et puis d'augmenter les doses, et de à la fois jamais être bien et se mettre en danger. Donc l'idée, c'est de sortir de l'utilisation de drogue en injection.
Martine Lalonde, médecin à la retraite.
Parce que finalement, méthadone et Subutex, c'est aussi des drogues. Puis, de contrôler une dose avec laquelle on est suffisamment bien, c'est-à-dire on n'est pas en manque, qui va durer suffisamment longtemps et qui permet de reprendre des activités normales, une vie normale. Parce que c'est vrai que quand on s'injecte de l'héroïne et puis qu'après on redescend de l'héroïne et puis qu'on recherche de l'héroïne, bon, c'est assez difficile de travailler, de vivre, d'avoir une vie un peu calme. Après, ce que disent les usagers, c'est que c'est pas le même effet. Il n'y a pas le même plaisir à prendre un traitement qui va vous stabiliser. C'est plutôt faire pour qu'on soit pas en manque, en fait, le traitement de substitution. La méthadone, c'est un équivalent de la morphine, c'est un opiacé fort, qu'on peut doser assez facilement, donc on peut arriver à trouver un équilibre avec une certaine dose. C'est celle qui était utilisée aux États-Unis, beaucoup au départ des traitements de substitution. Le Subutex, alors c'est censé être une drogue qui a des effets opiacés et des effets anti-opiacés. Donc en fait, le Subutex a pour réputation de ne pas pouvoir donner d'overdose, en fait, créer d'overdose. Parce qu'il y a un moment où de toute façon, ça fait un effet, un espèce de plateau et on risque pas de mourir de prendre du Subutex. Ce qui n'est pas vrai, parce que si on prend du Subutex et des benzodiazépines, enfin et des calmants, on peut quand même faire des overdoses, on en a vu. Nous, on avait peur qu'avec le Subutex, les gens retrouvent pas l'effet un peu de satisfaction qu'ils recherchaient, que du coup, ça marche pas, ou bien ils commencent à se l'injecter, etc. Là, il y a un peu le problème hein, aussi, que le Subutex, on peut se l'injecter, tandis que la méthadone, c'est en sirop, et on peut très difficilement s'injecter le sirop. C'était aussi pour ça que la méthadone était prescrite. Finalement, les deux sont assez équivalents dans leurs effets. Il n'y a pas vraiment d'argument l'un contre l'autre, quoi.
On a vu que par la politique de réduction des risques qui a mis en place, par exemple, ce qu'on appelle les traitements de substitution, quelque chose qui n'est pas du tout connu, mais qui sont un grand succès de la politique française, la méthadone et le Subutex. On est un des pays où ces traitements sont prescrits avec le plus de libéralité. On a stabilisé ces consommations d'héroïne. Après, pour ce qui est des quartiers populaires, il faut quand même mentionner qu'ils ont été un peu exclus de cette politique de réduction des risques. Et ça, ça fait partie d'un stigmate supplémentaire.
Comment ça, un peu exclu ?
Disons que dans les quartiers populaires, l'instance prioritaire d'intervention concernant l'usage de drogue, c'est la police, c'est les perquisitions et c'est l'incarcération. Si vous avez comme vecteur la police, l'incarcération, les rapports de force, ça peut pas marcher. Et le secteur spécialisé de lutte contre la toxicomanie, donc qui était censé s'occuper des toxicos, avait plutôt l'habitude de cette population, on va dire des jeunes des années 70, un peu en révolte. Quand elle a vu arriver la jeunesse des banlieues, ils ont été complètement déstabilisés. Et ensuite, les instruments de réduction des risques ont marché plutôt sur les jeunes de classe moyenne. Et effectivement, toute une génération de gens se sont sortis de ces histoires d'héroïne grâce au traitement de substitution. Pour les citer, on les a laissés en tête à tête avec le produit. Et c'est eux-mêmes qui se sont sortis d'affaires, mais par des moyens violents.
Sur Nanterre, c'est des groupes qu'on commence à mettre un terme.
Comment ?
Par la violence. Par la violence, parce que il y avait du deal partout, dans les cités, partout. Hein. Il y avait du deal, de la drogue, il y en avait partout. Parce que ça rapportait de l'argent, en fait. Ça rapportait, ouais, des sous. Ça mettait à l'aise. Et donc, pour beaucoup aussi, se sont laissés tenter, je veux dire, même des parents. Des parents qui fermaient les yeux parce que les gosses, voilà, qui deal et tout. Donc c'est pas ses enfants et tout, des parents qui ont fermé les yeux et même les mères de famille qui se sont mis à dealer. J'ai connu.
Et c'est ça qui a permis de mettre fin à l'héroïne
dans les cités ?
Dans les cités ?
Ah oui. À l'époque, on appelait ça les barbus. Mais ils n'étaient pas si barbus que ça, hein. Je veux dire, c'est pas des extrémistes, c'est pas des, comme on le dit aujourd'hui, des islamistes. Parce que ces personnes-là, pour certains, moi je les ai connus. Hein. On a grandi ensemble. Hein. C'est pas du tout des extrémistes. Hein. C'est des gars qui. Voilà, stop. À force de voir des overdoses et tout, bah tu t'arrêtes de dealer, puis c'est tout. Donc ils ont été prévenus une fois, deux fois, trois fois. Et puis après, ils sont passés à l'action. Hein. Et puis voilà, c'est tout. Avoir les parents pleurer, c'est combien de cadavres d'overdose par semaine, oui, c'est stop. Et ça marchait.
Mon oncle Nordine, qui lui était dans cette trajectoire, il avait envie de s'en sortir et il nous avait demandé de partir au bled, quoi. Et on avait dit, ouais, tiens, c'est peut-être pas une mauvaise idée.
Mohamed Meshmash, acteur associatif, Montfermeil.
Et on l'avait renvoyé au bled pendant presque 2 ans. Il disait que c'était le temps de rentrer, quoi. Et ma grand-mère, à l'époque, elle disait non, faut pas qu'il revienne, quoi. Faut le laisser là-bas encore, ça suffit pas. Et ma mère et tout le reste, elle dit, mais c'est compliqué de le laisser là-bas. On est tous ici, même si on a de la famille là-bas, t'es jamais à l'aise parce que tu vas chez de la famille, t'as pas ton chez toi. Et il est revenu, quoi. Et quand il est revenu, ça a duré un an où tout se passait bien jusqu'à qu'on s'est aperçu automatiquement des signes qui ne trompent pas, quoi. C'est-à-dire que quand il venait, il était toujours en train de se toucher le nez. Il parlait avec nous, on voyait ses yeux qui tombaient. Donc on a dit, ça y est, c'est reparti, quoi. Il est reparti dans ce truc-là. Et puis après, il est retombé à fond dedans. On avait perdu ma grand-mère entre-temps, puis dans son âme. Et donc il vivait dans l'appartement de ma grand-mère avec 2 autres frères. Et mon oncle Nordine avait l'habitude de passer tous les jours voir ma mère. Et pendant 2 jours, pas de nouvelles. Ma mère a dit, c'est pas normal, votre oncle Nordine n'est pas passé. Donc mon père est rentré du travail. Elle lui a dit, faut que tu ailles voir ce qui se passe, c'est pas normal. On y a été. Mon père a frappé comme un malade, ça s'ouvrait pas, il avait un pied de biche. Il a cassé la porte. Et dans l'appartement, je me rappelle, quand on rentre, il y avait un couloir, il y avait une chambre au fond, il y avait le salon, la cuisine, puis là, il y avait une chambre. On est rentré, on a crié Nordine, Nordine, Nordine. Moi, j'ai tourné tout de suite vers la chambre à gauche et j'ai trouvé mon oncle allongé avec une seringue dans le bras, où en fait, on lui avait vendu de la cam qui était mélangée à un autre produit. Et donc, il a fait une overdose. Quoi.
Est-ce que les habitants de Montfermeil à l'époque ou des quartiers se sont sentis qu'il y avait un soutien des municipalités, des autorités publiques pour essayer d'aider les personnes toxicomanes et leurs familles face à l'ampleur de la catastrophe, puisque ça a été beaucoup de morts dans de nombreuses cités en France, quoi.
Ouais, non. Là, on était seuls. Honnêtement, on était seuls. Chacun dans sa famille a été touché par une ou deux, trois personnes, voire des familles complètes. Mais non, on était seuls. Seuls face à ces trucs-là. Je vous cache pas que moi, j'ai fait partie des gens qui se sont mobilisés pour faire la chasse aux dealers. Parce que on était plusieurs à avoir vu une sœur, un frère mourir de la cam. On a fait notre propre ménage, en fait. On a fait en sorte que la cam ne revienne plus dans le quartier. Et on y avait réussi parce que pendant des années, la cam avait disparu. Mais ça a été quand même violent, quoi, je veux dire. On allait dans les endroits où il y avait du squat, on retournait le truc, on virait les squatteurs, et on faisait de la veille constamment, quoi.
À l'époque, on nous a souvent dit que les dealers étaient eux-mêmes souvent des gens qui consommaient et qui avaient une espèce de vente au départ plutôt de petites fourmis, c'est-à-dire d'usagers qui gardent une partie pour vendre, pour pouvoir se repayer sa cam, etc. Enfin, est-ce que ces dealers potentiellement qui étaient chassés étaient aussi potentiellement aussi des personnes qui étaient malades, en fait, enfin, en tout cas addictes aux produits?
Ah, sûrement, il va y avoir sûrement ça, ouais. Mais nous, on s'en foutait de ça. Nous, ce qu'on voulait plus, c'est que la cam, elle tourne plus dans le quartier. C'était ce qui nous intéressait, c'était juste sauver d'autres vies, quoi. Et ça a été ça, parce qu'après, comme je vous ai dit, bon, il y en a, ils sont morts, ils sont partis, les pauvres, ils sont morts par la cam, par le sida, certains. Puis il y en avait d'autres qui continuaient à entretenir le truc. Et en fait, ils étaient peut-être à la botte de grands dealers et ils le faisaient effectivement pour se payer aussi sa cam et ainsi de suite. Mais en attendant, c'est la mort qui vendait. Pour nous, c'est la mort qui était vendue. On voulait plus jamais ça, quoi. On voulait pas que la génération qui arrive derrière puisse y toucher. Voilà. Mais non, à l'époque, à part les clubs de préf qui étaient là, mais qui étaient dépassés, non, je le dis honnêtement, je trouve qu'on était un peu bien seuls.
Il y avait une histoire très intéressante, c'était un groupe qui s'appelait J'aime le lutte, et c'était des jeunes du quartier, pour la plupart enfants de migrants, qui avaient décidé de se révolter parce qu'il y avait des jeunes qui faisaient des overdoses, et qu'il y en avait une de trop. Et ils s'étaient dit qu'ils allaient s'organiser pour virer les dealers de leur quartier.
Martine Lalande.
Et du coup, ils avaient commencé par brûler toutes les voitures qui n'étaient pas immatriculées dans le 92. Alors je m'étais dit, oh là là, heureusement que je ne me balade pas avec une voiture immatriculée dans le 93, parce qu'elle aurait été brûlée. Et ils avaient viré tous les dealers. Enfin, vraiment, ils ont réussi un moment, mais en fait, ils étaient en bas des immeubles tout le temps, quoi. Et au bout d'un moment, ils avaient dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas devenir des milices. Donc, il faut qu'on s'organise et il faut qu'on trouve d'autres activités économiques pour les jeunes du quartier. Ils avaient commencé à penser l'économie sociale et solidaire. C'était le début, à ce moment-là, de faire des épiceries, des différentes activités. Ils ont commencé à se lancer. Et je me souviens qu'on avait fait venir un copain qui était spécialisé, justement, dans la création d'entreprises dans le cadre de l'économie sociale et solidaire pour parler avec eux. Et puis, en fait, l'affaire n'a pas duré. Parce que la municipalité, je pense, n'a pas apprécié que des gens s'auto-organisent et que ça prenne une ampleur pareille. Et ils ont favorisé une certaine partie de l'association plutôt qu'une autre, ce qui fait qu'il y a eu un clivage, l'association s'est coupée en deux et le truc a complètement foiré après. C'est impressionnant, hein, parce que c'était, nous, on était épatés, quoi. C'était une auto-organisation hyper, très mûre, citoyenne, et qui avait fonctionné, vraiment. Ils avaient viré les dealers pendant un certain temps. Et puis, comme ils n'ont pas réussi à vraiment faire de projets alternatifs, qu'ils n'ont pas été soutenus, ça s'est cassé la gueule, quoi, en quelques temps.
Comment cette épidémie d'héroïne se réduit à Orly et dans d'autres quartiers pour les plus jeunes, en fait?
À mon avis, il y a plusieurs vérités.
on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de jeunes qui mouraient. Il y avait un deuxième phénomène. Dans certaines familles, il y avait des consommateurs et des dealers.
Azzedine Zorbi, ancien éducateur, Orly.
Les dealers sont aperçus que c'était leur frère qui était en train de mourir. Donc pour eux, dealer de la poudre, il fallait que ça s'arrête. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça. Il y a eu une prise de conscience dans les quartiers. Il fallait mettre fin à ça. Même s'il y avait une solidarité avec tous les usagers, ils étaient protégés parce que c'était les enfants de la cité. On ne pouvait pas les rejeter, même s'ils étaient consommateurs. Personne ne... Il fallait juste trouver comment, je dirais, arrêter ce fléau. Et puis, c'était une période où il y avait l'apparition dans certains quartiers de la religion. Et certains jeunes ont dit stop. Il fallait éloigner les dealers. C'est vrai qu'ils se sont investis dans ce travail-là. L'héroïne, ça tue. Il faut que ça s'arrête. Et il y a eu une substitution par le cannabis qui s'est propagé dans les quartiers. Sauf que le cannabis, il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Avec ce qu'on appelle « je défends mon territoire », il y avait aussi des morts par arme. Et donc ça s'est fini tragiquement, différemment.
C'est une génération, Reda Sadki... parle de génération sacrifiée. Et Reda Tsetki, c'est une personne aussi qui s'est engagée à titre associatif, qui avait une émission sur la radio qui s'appelait Fréquence Paris Pluriel et qui a essayé de mettre en scène cette mémoire du sida parmi la population maghrébine. Et c'est le premier qui a mis le doigt de manière médiatique sur ce point obscur, là, sur ce non-dit, de la population d'origine maghrébine qui a... Alors lui, il parlait explicitement du sida. Alors effectivement, ça voulait dire parler de l'usage de drogue, de fait. Et le problème que ça posait dans les familles, dans les fratries, où, encore une fois, il y avait quelquefois 4, 5, 6 personnes touchées, soit par le sida, soit par l'overdose, soit par la prison, enfin, bon, des familles décimées. Une des choses qu'on a entendues, c'est qu'il y aurait... pas une seule famille maghrébine qui n'ait pas été touchée.
La première émission, c'est le 30 novembre 1995.
Est-ce que vous pouvez rappeler le nom de cette toute première émission ?
Alors, je crois que c'était les Maghrébins de France face au sida. J'avais un répondeur pour recueillir les témoignages, il y en avait quelques-uns. Et au départ, moi, ma démarche, c'est de créer une espèce d'espace de confiance où une mère, une sœur, parce que c'est quand même beaucoup côté femme, mais pas seulement, un frère, un père aussi, encore, peut-être pas si rare que ça finalement, sent qu'il peut parler de ce qu'il ou elle a vécu.
Reda Sadki, ancien animateur sur Radio Fréquence Paris Pluriel et fondateur du comité des familles pour survivre au sida.
Alors on fait des émissions sur la toxicomanie, sur les usagers de drogue, où il y a des dialogues avec des professionnels et tout ça, mais sur les parcours personnels, ça reste très compliqué d'en parler. Il reste beaucoup de choses qui sont difficiles à évoquer. Il y a des parents, par exemple, qui se rendent compte que leur manière de répondre, de réagir face à leur enfant qui se shoote, ils n'ont probablement pas fait les meilleures choses qui étaient les plus susceptibles d'aider leurs enfants. Il y en a qui nourrissent une culpabilité par rapport à ça. Donc ça aussi, c'est super difficile, quoi. Ça rend encore plus difficile d'en parler si soi-même on se sent responsable. Il y a aussi ce sentiment d'être responsable de ce qui est arrivé aux enfants. Sans véritablement m'en rendre compte, j'ai mis le doigt sur un truc qui permet par la radio petit à petit aux gens de prendre contact et puis d'écouter. Et c'est vraiment le média radio qui, beaucoup plus tard, je vais me comprendre à quel point c'est important, parce qu'il y a même une jeune femme qui vient et en fait, elle a trouvé les affiches que je diffusais dans les hôpitaux dans les affaires de son frère après son décès. Et du coup... elle fait partie des gens avec qui on va construire ce premier rassemblement.
L'émission conduit à un rassemblement qui a été intitulé « Génération sacrifiée ». C'est qui cette génération sacrifiée ?
En 2002, les rassemblements, c'est les rassemblements des familles maghrébines et africaines solidaires pour survivre au sida. C'est un titre à rallonge, mais c'est une espèce d'assemblage hétéroclite de gens qui sont venus à l'émission. Donc ils se rencontrent par le biais de l'émission. Mais c'est moi qui insiste pour dire, il y a peut-être un lien à faire entre Ton histoire, toi qui fais le tour des pharmacies tous les mois pour trouver des trithérapies à envoyer à ton frère Slim qui est en Tunisie, et toi qui as découvert l'affiche de l'émission de radio dans les affaires de ton frère après son décès. Ça veut dire que des gens de quartiers complètement différents, qui se seraient jamais rencontrés sans l'émission, bah du coup font le lien. Donc il y a ça aussi. Donc ça aussi, c'est la radio qui le permet. C'est la volonté, le parti pris. Et ça vient vraiment de moi, en tout cas au début, de dire que c'est une parole publique et que sans parole publique, on n'avancera jamais.
Et il n'existe pas vraiment, du coup, une mémoire de l'épidémie du sida et de l'héroïne à Nanterre pour les plus jeunes? Est-ce que les gens, vous avez l'impression que les habitants de Nanterre se rappellent de cette époque? On en parle ou pas?
Non. Non, non, on n'en parle pas, non. Toutes les familles, moi, sur Nanterre, quand on se voit, on parle jamais de... Non, des personnes qui sont parties, quoi. On n'en parle pas. On ne cherche pas, Non, ils veulent peut-être l'oublier, hein. On ne parle pas. Chez moi, c'est pareil, hein. Moi, j'ai mes enfants, mes petits-enfants maintenant et tout, on n'en parle jamais. Mon fils, il se souvient de... Il a 35 ans, hein. Il se souvient de ses oncles et tout, jamais il m'en parle. Et j'en parle pas aussi. Donc, c'est comme ça, faut continuer, puis c'est tout, hein. Ça...
Vous parlez des morts, il y en a eu beaucoup, notamment en région parisienne. Mais pas que, dans le quartier nord de Marseille, et puis comme vous le dites aussi, hein, parce que c'est vrai que nous on axe plutôt notre documentaire autour de ce qui s'est passé dans les quartiers populaires, comme on dit, mais ça a été une histoire nationale. Quelle mémoire de ces absents, de ces morts, aujourd'hui?
Est-ce qu'on a cette mémoire-là? Je n'en sais rien. Dans les familles, certainement. Par exemple, j'ai passé le premier de l'an avec des amis de deux familles différentes d'ici, et ben dans chacune il y a des morts de la toxicomanie, mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. C'est trop douloureux.
À partir du moment où cette communauté a éliminé d'elle-même les structures liées à l'héroïne, elle avait quand même importé l'idée que la drogue, c'est un marché. Et un marché, encore une fois, d'abord dirigé par la demande de drogue qui vient de l'ensemble de la société. Et donc, s'est installé le business du cannabis à la place, qui est de la drogue consommée depuis toujours. On parle de cette histoire d'héroïne parce que c'est une histoire dramatique, mais la première drogue consommée, la première demande de drogue, déjà à l'époque, c'était le cannabis. Et donc, les structures de business qui sont mises en place par le biais de l'héroïne, ont été remplacés par des structures de business liées au cannabis et secondairement à la cocaïne. Donc les conséquences de cette histoire d'héroïne pour les quartiers populaires, elles sont infinies, quoi.
La France faisait partie des deux ou trois premiers pays européens par le nombre d'usagers d'héroïne contaminés par le sida. Donc on a eu quand même cette maladie mortelle, parce qu'à l'époque c'était une maladie mortelle, qui a frappé très durement les héroïnomanes. C'était pas seulement dû à l'héroïne ou seulement dû à leur comportement à risque, voire suicidaire, c'était aussi dû à une politique qui n'avait pas de réponse de santé. Et quand on a les réponses de santé adaptées au problème, eh bien on voit que la mortalité se réduit, les gens vont mieux, ils se soignent. Parce qu'on dit tout le temps, les toxicomanes ne veulent pas se soigner. Bah si, quand ils sont un peu stabilisés sous traitement, ils se soignent, ils se sont soignés, et ils, surtout, c'est pas seulement qu'ils se sont soignés, ils ont changé de comportement, ils ont arrêté de partager leurs seringues, et le sida a été surmonté. Donc le sida a été surmonté en 1999, on en avait la preuve. Avant, il y avait à peu près un tiers des personnes contaminées qui s'étaient contaminées par injection. Et en 2000-2001, quelque chose comme ça, c'était tombé à moins de 2%. Mais il y a aussi la baisse des overdoses, du moins celle qui est constatée sur la voie publique. Donc c'est une baisse qui se monte presque à 80%. On avait 500 overdoses en 1994, on en avait moins de 100 en 1999. Il y a eu aussi une baisse de la mortalité due au sida. C'est aussi grâce au fait qu'il y a les traitements sida. Mais enfin, si les usagers, y compris les plus marginaux, ont réussi à se soigner, c'est parce que ils étaient stabilisés sous leur traitement de substitution et donc ils ont pu se soigner régulièrement et arrêter de mourir. Il y a eu, par exemple, une évaluation qui a été faite sur la mortalité évitée grâce au traitement de substitution qui s'appelle le Subutex, qui aboutit à 60 000 morts évitées, juste par le Subutex. Donc, bon, ça donnait que des très bons résultats, et donc ça a mis un frein à la diffusion de l'héroïne, quoi, c'est sûr. Bon, il y en a toujours, hein, il y a toujours des héroïnomanes, mais enfin, ils ne posent pas de problème en ce moment, donc on n'en parle pas.
Quel regard vous portez sur les responsabilités de l'État ?
L'État a une très lourde responsabilité dans tout ça. C'est-à-dire que, en fait, la première, c'est d'avoir une gestion aussi simpliste de cette question complexe, aussi bien d'un point de vue des politiques de santé publique, par toujours les mêmes qui disent que la réduction des risques, c'est flatter l'usage de drogue plutôt qu'aller à son encontre. En fait, toujours ces discours prohibitionnistes qui débouchent juste sur rien, quoi. Donc ça, on est plutôt en période de régression.
Au-delà-lande. Ethnologue.
Et puis il y a un cynisme extraordinaire sur la façon dont on pense la question de l'approvisionnement en drogue. Disons qu'en gros, il y aura toujours des consommations. Ça fait partie de l'histoire de l'humanité. C'est un peu comme l'avortement ou comme les histoires des passeurs avec les migrants. C'est-à-dire que, ok, on interdit l'avortement, mais de toute manière, il y aura des avortements. Donc voilà, qui va les prendre en charge et dans quelles conditions ? Ou on s'en prend aux passeurs, là, pour toutes les questions de migration, de toutes ces trajectoires tellement dangereuses, en fait, qui sont empruntées par les gens qui veulent gagner l'Europe ou qui veulent gagner les pays les plus aisés. Tout le monde tombe sur les passeurs, mais de toute manière, la nécessité de bouger, la nécessité de sortir du pays où on ne peut plus vivre, elle s'impose. Donc les gens vont sortir. Donc la question, c'est à qui on confie ce rôle, qui a un rôle social indispensable, incontournable. Pour moi, c'est la même chose. Les drogues, il y aura toujours des gens qui consommeront de la cocaïne, de l'héroïne, il y en aura toujours. Donc, à partir de là, soit on s'occupe de cette question, on l'aborde, on met en place des outils pour contrôler la qualité des produits, pour border un peu les façons de les utiliser, comme on l'a fait avec l'alcool. On limite les dégâts, en gros. Soit on décide que ça ne devrait pas exister et du coup, on le laisse gérer par qui veut bien s'en occuper, donc par des marchés illicites. De fait, aujourd'hui, on confie ça aux quartiers populaires. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les marchés de drogue illicite, cannabis, cocaïne, MDMA, ils sont portés par les cités populaires dans des conditions de violence, d'intrication entre logique mafieuse et phénomènes de survie, en fait, qui sont extrêmement délétère pour des quartiers entiers. Et par ailleurs, c'est aussi une bombe à retardement. C'est-à-dire, c'est l'équilibre social global qui est vraiment extraordinairement délétère, quoi. C'est fou de construire une société où on met des tant de jeunes gens dans des situations pareilles.
Merci à Anne Coppel, Dynasty, Ahmed, Fabrice Olivet, Nelly Boulanger, Malika, Martine Lalande, Rabat, Mohamed Meshmash, Azeddine Zorbi, Reda Satki et à Aude Lalande. Prise de son, Eric Audra, Raymond Alboui, Florent Bujon et Thomas Robin. Mixage, Cédric Chatelus. Archivina, Véronique Jolivet. Chargée de programme, Marie-Vanna Bolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. Héroïne, Le temps des seringues, 4e épisode, Une lente redescente. Un documentaire de Ajerben Boubaker, réalisé par Gilles Blanchard. Retrouvez-nous sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France.